Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Dieu qui voyez qu'aucune de nos actions ne nous inspire confiance. Mes très chers frères, l'Église, en ce dimanche de la Sexagésime, l'Église, en sage pédagogue, continue à nous enseigner des vérités fondamentales afin que nous nous préparions à entrer dans le temps du carême avec un esprit de gratitude et de pénitence en même temps. Nous avons plusieurs choses à voir dans les textes longs et très importants de la messe de la Sexagésime. Dans un premier point, avec l'aide du Saint-Esprit, nous poserons la question « comment écouter ?». Nous parlerons aussi de comment on écoute mal et nous dirons un mot sur qui écouter. Ensuite, dans un deuxième point, nous verrons comment retenir. Ce sont les mots mêmes de notre Seigneur, nous allons le voir dans un instant. Comment retenir ? Comment on retient ? Et comment on retient aussi pour de mauvaises raisons ? Et comment les épines étouffent la parole de Dieu ? Et dans un troisième point, nous verrons comment porter du fruit et nous parlerons des deux grands dons de la grâce qui rendent la fruition possible. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
C'est aujourd'hui la parabole des quatre terrains. Il y a trois terrains qui reçoivent la parole et qui ne la gardent pas, et il y en a un qui, dans laquelle elle tombe et elle s'enracine, elle porte du fruit. Notre Seigneur dit, à la fin de cette parabole, de l'explication qu'il donne de cette parabole, il dit « Ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bon et excellent, la retiennent et portent du fruit par la patience. » Les commentateurs de cet évangile, mes très chers frères, nous disons qu'il y a trois choses absolument nécessaires pour être sauvé, ou disons trois choses nécessaires pour être sauvé, c'est le processus. Trois choses, trois actions de l'homme vis-à-vis de la parole de Dieu. Vous avez compris, il s'agit tout d'abord d'écouter, deuxièmement de retenir, et troisièmement de porter du fruit, ce sont nos trois points. Le premier point concerne donc le fait d'écouter. Nous voyons que beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu dans cette parabole et personne, même ceux dans le cœur desquels le démon vient enlever la parole, ceux-là sont dits avoir entendu la parole de Dieu, puisque notre Seigneur dit « ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui écoutent ». Ensuite, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Il faut donc commencer par écouter. Et dans un certain sens, c'est la chose la plus facile quand on y pense. Il y en a qui détournent l'oreille, dit l'Écriture, et pour ne pas entendre la parole de la loi de Dieu, et leur prière est une abomination aux yeux de Dieu. Mais ça, il s'agit des chrétiens qui sont entrés dans la voie, qui ont été baptisés, qui ont persévéré, et ensuite qui, à un certain moment, refusent d'écouter. L'écoute dont il est question ici est quelque chose de très simple, de très facile. Il suffit, si j'ose dire, d'avoir des oreilles pour pouvoir écouter. Écouter la parole de Dieu exige une grâce particulière. On peut écouter tout et n'importe quoi parce que nous avons des oreilles, sauf si on est sourd évidemment, mais et encore on peut écouter d'une autre manière, on peut écouter en lisant, on peut écouter en regardant, etc. Donc parlons ici du commun de l'humanité. Écouter est la chose la plus facile à faire, il suffit d'avoir des oreilles. Écouter la parole de Dieu exige une première grâce, néanmoins, cette grâce est très faible. Beaucoup de gens, il y a un certain nombre de gens qui, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, détournent directement l'oreille, ils ne veulent pas écouter pour diverses raisons, probablement parce qu'ils ont déjà entendu quelque chose d'autre, ils sont peut-être d'une autre religion, donc ils ne veulent absolument pas écouter ce que dit notre religion. Ils sont peut-être aussi très prévenus contre la religion, donc du coup, ils, sans être d'une autre religion, ils ne veulent pas entendre la religion parce qu'ils pensent que c'est mauvais, parce que sais-je. Donc, c'est vrai qu'il faut une certaine grâce de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Maintenant, cette grâce de Dieu est une grâce qui est si faible, en quelque sorte, c'est-à-dire si d'ordre tellement général qu'on peut à peine parler d'une grâce à son propos, même si, effectivement, c'est déjà une grâce. Voyez, la nature humaine se porte volontiers à écouter, à l'écoute, et surtout à l'écoute des nouveautés. Lorsque les Athéniens ont écouté saint Paul qui leur parlait de la religion chrétienne, ils ont écouté d'une façon attentive au début parce que c'était un peuple qui aimait écouter des nouvelles et qui aimait s'enrichir, comme on dit aujourd'hui, s'enrichir de toutes sortes de choses qu'il ignorait jusque-là. Est-ce que ça faisait de lui un peuple qui absorbait absolument tout ce qu'il recevait ? Non. Beaucoup de gens veulent bien écouter, surtout des choses qu'ils ne connaissent pas, mais il se trouve que c'est l'attrait du discours dure aussi longtemps que les conclusions pratiques ne sont pas abordées. Lorsque on parle à quelqu'un de notre foi, de notre religion, s'il a reçu un minimum de grâce de Dieu, il va écouter. Maintenant, si on termine le discours en disant « Eh bien, voilà, maintenant, il faut que vous deveniez chrétien », je synthétise un petit peu, c'est peut-être pas forcément comme ça qu'on doit le dire, mais « Il faut que vous deveniez chrétien, il faut que vous soyez baptisé, il faut que vous soyez agrégé à l'Église, il faut que vous soyez réconcilié avec l'Église pour commencer enfin à vivre à la hauteur de votre baptême, selon la volonté de Dieu », là, tout d'un coup, la personne qui vous écoutait volontiers parce que c'était nouveau pour elle ou c'était intéressant, tout d'un coup, elle se brusque, elle se ferme, pourquoi ? Parce que celui qui n'a reçu que la grâce d'écouter n'a presque rien reçu, puisqu'il peut très bien écouter pour des raisons qui sont simplement des raisons de curiosité. La concupiscence, voyez-vous, mes très chers frères, s'exerce sur n'importe quel sujet, n'importe quel point, aussi longtemps, voyez-vous, la concupiscence s'exerce sur n'importe quel sujet, même celui de sa propre condamnation, et elle ne commence à se révolter que lorsqu'il s'agit de mettre en pratique avec patience les conclusions ou les préceptes de ce qu'elle entend, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Nous y reviendrons dans un instant un peu plus loin. Ne pensons pas que quelqu'un qui est plein de concupiscence, c'est-à-dire qui est tout à fait normal pour l'homme déchu, n'écoutera jamais la parole de Dieu. Il l'écoutera jusqu'aux conclusions, la mise en pratique exclusivement. Le désir de savoir, ce qu'on appelle en latin libido scendi, c'est-à-dire la soif, le désir de connaître des choses, le désir de savoir dans l'homme vient de l'image de Dieu. Blaise Pascal nous dit que la plupart du temps, on veut savoir pour pouvoir parler, pour pouvoir briller. Et non pas pour intelliger, mais pour pouvoir redire ce qu'on a appris, spécialement à des gens peut-être qui l'ignoraient ou qui n'en savent pas autant que nous. On veut savoir pour briller. Ça, c'est le désir de science corrompu par la concupiscence. J'en profite, mes très chers frères, pour dire que la vraie sagesse s'acquiert par le silence, surtout chez les enfants, surtout chez les jeunes gens, surtout chez ceux qui apprennent, surtout chez les séminaristes, surtout chez les religieux qui sont en noviciat. On apprend, et de peur que la science ne se dissipe, il faut mettre une main sur sa bouche et fermer sa bouche. Celui qui parle immédiatement de ce qu'il a appris, aussitôt qu'il l'a appris, dissipe la parole, et je parle de la parole de Dieu ici, dissipe la parole de Dieu qui a été semée dans son cœur par celui qui sème. C'est une chose très importante de comprendre que on ne devient sage qu'en se taisant et en faisant comme la Sainte Vierge qui gardait en son cœur, en silence, toutes les choses qu'elle voyait et qu'elle entendait. Il faut que le bon grain meure, dit notre Seigneur, c'est-à-dire germe, change d'état, de façon à pouvoir devenir une plante qui, à un certain moment, porte du fruit. Il y a, voyez-vous, mes très chers frères, et c'est une chose qui est typique de l'homme depuis la chute, mais elle est exacerbée en modernité, qui donne à l'homme concupiscent beaucoup de moyens qu'il n'avait que péniblement à sa disposition avant. Il y a une frénésie chez les catholicoïdes et chez les christianoïdes, il y a une frénésie de partager. Vous voyez, on appelle ça diffuser. Il faut diffuser. Vous avez lu quelque chose de bien, diffusez. Vous avez lu un article, etc., diffusez-le. L'article est fait pour être diffusé. On prend des passages de l'écriture, on diffuse. Diffusez. Eh bien, mes très chers frères, cette frénésie de partager, voyez-vous, mes très chers frères, elle est à mortifier. Parce que celui qui parle trop tôt, nous disent les maîtres spirituels, devient incapable d'intelligence. Et quand nous disons, quand les maîtres disent « parle trop tôt », c'est-à-dire hors de son état, il y a des choses que l'on apprend et que l'on n'aura jamais à répéter. Il y a des choses que l'on apprend et que l'on n'aura à répéter qu'à une catégorie très particulière, très petite de gens. Prenons un exemple, par exemple, les mères de famille reçoivent un enseignement spécifique pour leur état, et au lieu d'en faire des podcasts, des blogs, etc., pour instruire les hommes, les femmes, tout le monde, les jeunes gens, les jeunes filles, etc., ce qui serait tout à fait la mauvaise chose, elles ne doivent transmettre ce qu'elles ont appris de la part de l'Église, ou de leur propre mère, c'est les deux vont de pair, à leurs filles. Alors, vous allez dire, ça fait pas beaucoup quand on a une seule fille, quand on a deux, trois filles, quand on a cinq filles. Même si on avait 10 filles, ça serait toujours très peu. Et ça ne permettrait pas un apostolat, comme on dit avec beaucoup de guillemets, un apostolat du partage. Gardez la sagesse que vous avez reçue pour vous-même et faites-la fructifier selon votre état. La vérité dite n'importe comment par n'importe qui n'est plus qu'une subversion de l'ordre dont la vérité est l'âme et la condition sine qua non. L'ordre ne peut pas survivre s'il n'est pas imprégné de vérité, s'il il n'est pas constitué selon la vérité et s'il ne propage pas la vérité. Mais si la vérité est dite par n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, eh bien, alors, elle n'est plus que subversion. Et on le voit, je pourrais donner des exemples, vous les connaissez, mes très chers frères, mais je passerai parce que nous avons encore plein d'autres choses intéressantes à voir. Mais ce n'est pas le fait de dire une chose vraie qui va faire porter à la vérité son fruit. Encore faut-il qu'elle soit dite par une personne qui soit missionnée pour le dire et qu'elle soit reçue par des oreilles qui sont destinées à la recevoir. Il faut donc, mes très chers frères, prendre l'habitude d'écouter en silence et de mortifier, après la libido chiendi, c'est-à-dire le désir d'apprendre, le désir de parler. Quand je dis le désir de parler, ça serait plutôt le désir de papoter. On écoute quoi donc ? On écoute la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu de deux façons possibles. Ou bien dans une occasion fortuite de la bouche de tout chrétien qui nous parle de la parole, qui nous parle de Dieu pour la première fois de notre vie. On se souvient souvent de la première fois que quelqu'un nous a parlé de Dieu et nous a orienté vers l'Église. Donc lors d'une occasion fortuite, accidentellement, mais aussi quand on est devenu chrétien, habituellement, on écoute la parole de Dieu dans l'Église. Et c'est pour cela qu'il y a une nécessité impérieuse de l'ordre et de la régularité canonique. Voyez-vous, mes très chers frères, les prédicateurs de l'Internet sont des histrions stériles qui n'engendrent que des monstres. Tous les convertis d'Internet, à moins qu'ils se convertissent une deuxième fois, sont des sortes de monstres autodidactes, formés, informés par des gens qui n'ont aucune mission, et même la plupart du temps, aucune compétence, nonobstant, disons, leur talent, aucune compétence pour annoncer la parole de Dieu, ce qu'ils ne font pas d'ailleurs, ce qu'ils font d'une façon très maladroite, quand bien même ce serait très savant, l'un n'exclut pas l'autre. Voyez-vous, mes très chers frères, je le dis, bien sûr, ça vexe plusieurs personnes ici, mais il se trouve qu'il faut se convertir une deuxième fois. C'est une chose que d'avoir été mis sur la piste d'une manière ou d'une autre, et Deo gratias, mais encore faut-il être dans l'ordre. Or, tout ce qui ne commence pas par l'ordre finit toujours dans le désordre. Ça, c'est une maxime très importante. Voyez-vous, mes très chers frères. Donc, faisons très attention. On écoute la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, enseignée par l'Église. Il faut que ceux qui nous enseignent habituellement la parole de Dieu et tout ce qui va avec soient les ministres légitimes de l'Église. Pas des vagus qui font n'importe quoi, pas des gens qui se prétendent ceci ou cela, pas des gens qui ont le hobby de faire des podcasts et d'autres catéchismes sur l'Internet. Je dirais même qu'un catéchisme qu'on écouterait même fait par un prêtre, même par hasard dans l'ordre, si c'était possible, un catéchisme qu'on écouterait sur l'internet n'aurait pas le même impact et ne ferait pas de nous un chrétien. Nous ne recevrions pas la parole de Dieu de la même manière et nous la recevrions d'une façon très fautive, très ténue. Nous en recevrions comme l'écho, dans le meilleur des cas. Pourquoi ? Parce que ce que l'on entend doit venir de l'Église réelle et non pas d'un livre, non pas d'une vidéo, d'un audio, etc. Elle doit venir de l'Église qui est vivante, une, sainte, catholique, apostolique, indéfectible et dotée des promesses de son divin époux jusqu'à la fin du monde. Il y a, voyez-vous, mes très chers frères, passons à autre chose, il y a un aspect terrible de la nature quand elle n'est pas trop mauvaise. Il y a des gens qui naissent, ils sont pleins de vices, ils sont mauvais, bon, c'est pas très difficile de s'en rendre compte. Il y en a d'autres qui naissent avec un bon tempérament, qui sont plutôt gentils par nature ou qui sont plutôt bons par nature. Eh bien, ce sont les pires. Pourquoi ? Ce ne sont pas les pires par rapport à l'expérience qu'on peut en avoir, Dieu merci, mais c'est les pires vis-à-vis de la grâce. Pourquoi ? Parce que leur nature pas trop mauvaise font, et c'est notre Seigneur qui parle, qu'ils reçoivent la parole avec joie. Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui, entendant la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, et au moment de la tentation, ils se retirent. Ils reçoivent avec joie. Combien de gens reçoivent avec joie l'annonce de l'Évangile et ils ne persévèrent pas ? À quoi correspondait cette joie ? Sinon, mes très chers frères, au désir de s'approprier quelque chose de nouveau, d'inouï, pour eux en tout cas, de quelque chose qui leur a servi pendant un temps, et comme nous le dirons dans un instant, qui, d'une certaine manière, devenant trop contraignant, ne leur plaît plus. Ils reçoivent néanmoins avec joie la parole de Dieu. On reçoit avec joie comme ce à quoi on aspire. Mais, voyez-vous, la concupiscence permet à l'homme d'avouer avec notre Saint-Père Augustin que l'homme est fait pour Dieu et qu'il ne trouve son contentement qu'en Dieu. Maintenant, quand l'homme cherche son contentement et qu'il accueille la parole de Dieu comme ce à quoi il espère, il l'accueille avec joie et pourtant, il est totalement à côté de la plaque, si vous me permettez l'expression. Pourquoi ? Parce qu'il s'imagine que Dieu est fait pour le combler, alors que la créature est faite pour être comblée par Dieu. Voyez-vous la différence ? C'est extrêmement différent. C'est extrêmement différent. Dieu n'est pas ce qui nous manque. Dieu nous a créés pour que notre cœur soit rempli de lui. Ce n'est pas la même chose. La concupiscence est une pierre sous-jacente à la joie de l'écoute qui empêche que cette écoute porte des racines, se prête aux racines. Voyez-vous, mes très chers frères, et je le dirai spécialement pour ceux qui écoutent les sermons sur le site, écoutez dimanche après dimanche avec intérêt la parole de Dieu et n'en tirez aucune conclusion pratique, ne pas se mettre à genoux pour demander pardon à Dieu pour ses péchés, pour demander à l'Église de nous intégrer dans l'ordre et pour se nourrir des sacrements et pour être véritablement un chrétien. Voyez-vous, écoutez dimanche après dimanche avec intérêt la parole de Dieu et n'en tirer aucune conclusion pratique, eh bien, mes très chers frères, c'est travailler à endurcir son cœur. Il faut donc écouter la parole de Dieu, c'était notre premier point. Écouter, c'est facile. Il faut donc, c'est notre deuxième point, retenir aussi. Il faut aussi retenir, écouter, retenir. Voyez-vous, mes très chers frères, c'est notre Seigneur qui le dit. Ceux qui écoutent, ayant écouté la parole de Dieu, etc., la retiennent. Il faut donc retenir. Paradoxalement, la parole de Dieu, nous en avons parlé il y a un instant, se retient d'autant mieux que le cœur est rempli de choses qui lui sont contraires. Écoutez bien, vous allez dire, c'est curieux, pourquoi on ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein ? Un vase qui est déjà plein ne peut pas être rempli d'eau, mais une terre qui a déjà des épines peut recevoir encore d'autres plantes. Ça se voit, regardez les coins du jardin où on ne travaille pas, il y a toutes sortes de choses qui foisonnent. Voyez-vous, l'un n'exclut pas l'autre, justement. C'est notre Seigneur qui le dit. Ceux qui tombent parmi les épines, ce sont ceux qui ont écouté la parole et qui s'en vont ensuite étouffés par les sollicitudes, les richesses et les plaisirs de la vie et ne portent pas de fruits. Donc, ce sont ceux chez lesquels la parole de Dieu a non seulement été entendue, mais elle a été aussi retenue jusqu'à un certain point. Et notre Seigneur, dans la parabole, dit « Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines, croissant avec elle, l'étouffèrent. Pendant un certain temps, contrairement au premier que nous avons vu, pendant un certain temps, la parole de Dieu croît, c'est-à-dire grandit, dans le cœur où grandissent en même temps les épines. Les deux, la parole de Dieu et les épines, ne rencontrent pas de pierre. Ils s'enracinent, mais les épines sont plus fortes. Elles sont plus fortes. Comment se fait-il que les épines soient plus fortes que la parole de Dieu ? C'est ce genre de personnes-là écoutent la parole de Dieu, ils la retiennent et ils l'étouffent. Souvent, voyez-vous, mes très chers frères, on écoute attentivement la parole de Dieu quand on a besoin d'aide à cause de ses soucis. Mon cœur est plein de soucis, j'entends la parole de Dieu, j'accueille la parole de Dieu à cause des soucis dont je suis plein. La religion est considérée comme une consolation. Sous un certain rapport, la religion console, mais elle ne fait pas que cela. Bon, considérer la religion uniquement comme une consolation, c'est se mettre en danger. Il y a une façon d'être consolé par la religion, il y a une façon aussi d'être diverti par la religion. Avec certains courants liturgiques au XIXe siècle, la religion, et spécialement la messe, devient un spectacle. Je vais à la messe, non pas pour recevoir le corps du Christ, mais pour aller à un beau spectacle digne des cathédrales que l'on s'attachait à rebâtir et à emplâtrer au XIXe siècle. Donc on a voulu que dans des belles cathédrales retapées par la République, ou pas simplement la République, mais enfin disons par les mondains, eh bien on a voulu mettre une belle liturgie. Alors, que la liturgie soit la plus belle possible, ça c'est bien. Mais aller à l'église pour la liturgie, pour la belle liturgie, pour le beau spectacle, je ne dirais même pas la belle liturgie, la liturgie doit être belle, pour le beau spectacle, et ne pas y aller quand il n'y a pas un beau spectacle, ou y aller quand il y a une chorale particulièrement bien qui, etc. Voyez-vous, mes très chers frères, c'est une autre façon d'accueillir la parole de Dieu dans son cœur et de laisser croître à côté des épines terribles. Bon, ça c'est plutôt pour les esthètes. Nous avons parlé d'abord des gens qui souffrent. Ils s'imaginent que la religion est purement consolation. Ensuite, il y a les esthètes. Bon, les esthètes sont surtout dans les grandes villes, dans les instituts ralliés qui ont des moyens, etc., pour avoir des beaux spectacles. Et il ne faut pas leur parler de l'évangile, évidemment, puisqu'ils sont par ailleurs gangrenés de toutes sortes de choses fausses, à commencer par leur appartenance à la néo-église. Ensuite, il y a aussi une façon d'accueillir la parole de Dieu qui est comme une thérapie, c'est-à-dire on s'attache à elle parce qu'elle nous sert à aller mieux, elle nous sert à soigner les maladies de notre âme. Et Dieu sait si notre âme est souvent malade et que la parole de Dieu soigne notre âme, c'est vrai. Mais si on s'attache à la parole de Dieu, si on s'attache à la religion uniquement pour le côté thérapeutique, encore une fois qui est légitime cette fois-ci, mais thérapeutique, voyez-vous, mes très chers frères, ce qui est certain, c'est que la religion médicament deviendra vite inutile dès lors qu'on s'estimera guéri, ou du moins soulagé. Quand on prend une thérapie, quand on prend une médecine, c'est pour aller mieux, c'est pas pour la garder toute sa vie. Donc bien souvent, on a des problèmes. Combien de fois avons-nous vu ça dans notre ministère pastoral ? Nous voyons des gens qui viennent à l'église vraiment d'une façon très bien disposée parce qu'ils souffrent énormément, et dans la mesure où ils vont mieux, on ne les voit quasiment plus à la messe, ça s'espace, les sacrements ne sont plus aussi utiles, et ils les gardent, un peu comme on garde l'adresse d'un bon médecin quand on a recouvré la santé, ils les gardent dans le fond de leur esprit au cas où ça irait mal. Voyez-vous, mes très chers frères, bien sûr que la religion est faite pour soigner notre âme, mais ce n'est pas cela que nous devons chercher primordialement chez elle. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Demandez pardon à Dieu, faites pénitence pour votre vie de concupiscence et de péché, et il se trouve que vous serez guéri par ces meurtrissures. Ne cherchez pas la guérison avant d'avoir demandé pardon. Pardon à Dieu, tout d'abord. Dès lors que l'on va mieux, dès lors que, comme on dit, on s'est retrouvé, ça c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un chrétien, se retrouver lui-même, c'est-à-dire se retrouver esclave de lui-même, eh bien, on n'a plus besoin de la religion. Voilà, mes très chers frères, comment on peut accueillir la religion, on peut la retenir pendant un certain temps, et cela tourne à notre catastrophe. Notre Seigneur ne parle pas de joie dans ce cas-là. La joie est celle, est celle de ceux qui n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et au moment de la tentation, ils se retirent. Ceux qui reçoivent la parole de Dieu et qui la gardent pendant un temps, bien souvent, sont beaucoup moins sentimentaux que les premiers. Notre Seigneur souligne l'absence de persévérance. Nous parlons de la persévérance dans notre troisième point. Voyez-vous, l'accueil de la parole de Dieu a été, chez ces gens-là, sérieux, relativement peu sentimental, encore qu'on est toujours plus sentimental qu'on peut l'imaginer, mais bon, accueil sérieux, peu sentimental, peu euphorique, voyez-vous. Il s'est peut-être contenté d'être même rationnel. Oui, j'ai compris que, par exemple, la France redeviendrait la reine des nations, que dans la mesure où tous les Français reviendront à la religion catholique traditionnelle, non nonacum, etc. Et donc, du coup, moi qui suis français, etc., etc., le syllogisme imparable, c'est une sorte de conversion intellectuelle. J'ai compris qu'on nous mentait, j'ai compris que les manuels scolaires étaient remplis de mensonges maçonnico-républicains, etc. Donc, j'ai compris. J'ai compris, et tout ce que j'ai compris fait, mes très chers frères, que cette pauvre petite graine de la parole de Dieu pousse à côté d'épines terribles, qui sont les épines parmi lesquelles elle a été accueillie. Parmi lesquelles elle a été accueillie et qui finiront par la phagocyter, par la dévorer, par l'étouffer, selon l'expression de notre Seigneur. Les épines l'étouffèrent. Cet accueil de la parole de Dieu chez cette catégorie de gens semblait sérieux, semblait pérenne, voyez, d'une façon qui est durable. En réalité, la religion étant entièrement subordonnée aux intérêts personnels, dans la mesure où ceux-ci sont plus ou moins acquis, ou plus ou moins atteints, ou plus ou moins pas atteints, justement, on finit par se lasser de la religion. On s'était dit, je vais utiliser la religion pour ceci. On a cru le faire, ça n'a pas marché, on se dit donc ça ne sert à rien. Donc ce n'est pas si important. Donc j'ai quand même tout ce qu'il me faut, et la religion n'est qu'un supplément d'âme qu'on m'avait fait valoir, plus ou moins dans certains milieux, mais en réalité c'est un supplément d'âme qui ne va pas très loin. Et sous un certain rapport, cette expérience est tout à fait vraie, parce que cette religion-là est un supplément d'âme, non pas la religion de notre Seigneur qui est la nôtre. La religion qu'on apprend sur l'Internet est un supplément d'âme. Et Dieu sait si ça donne si ça booste un peu, comme on dit, les vies qui se cherchent, les gens qui se cherchent, qui sont un peu mal à l'aise, qui cherchent un milieu, qui cherchent des amis, qui cherchent une fréquentation, qui cherchent être membre d'une certaine élite de gens qui savent, ceux qui connaissent, ceux qui sont conscientisés, etc. Autant de monstres. Mes très chers frères, autant de monstres qui ne sont pas dans l'Église catholique, autant de monstres qui se trompent cruellement, et ils sont moins cruels envers eux-mêmes qu'envers la parole de Dieu, qu'ils étouffent progressivement dans leur cœur. Ils étouffent toujours, pourquoi ? Eh bien parce que, ne faisant confiance qu'à eux-mêmes, la parole de Dieu telle qu'elle est enseignée par l'Église, c'est-à-dire d'une façon légitime et canonique, eh bien finit toujours par être étouffée dans le cœur de ces gens-là. Mes très chers frères, prions que nous ne soyons pas de ces gens-là, que nous ne soyons pas de ce type de personnes-là, et prions que ces gens-là aussi se convertissent. C'est une sorte de démarche inversée, nous l'avons dit plusieurs fois, mes très chers frères, mais nous devons le redire à nouveau, c'est une démarche inverse de la maxime « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît ». On cherche le reste, et on se dit, tout ceci se permettra de chercher le royaume de Dieu et sa justice, éventuellement, si j'ai le temps. Ces gens-là, même s'ils ne parlent pas, ils ne tiennent pas ce discours, à eux-mêmes d'une façon franche, néanmoins s'acheminent toujours vers une secrète déception. Vous voyez, une ambition déçue. Ah, quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, ou plutôt aujourd'hui, on a la mentalité, les gens de 35 ans ont la mentalité des gens qui avaient 15 ans il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'ils sont très puérils et très pleins d'illusions. Mais donc, mettons qu'on a entre 20 et 35 ans et on se dit, ah voilà, on va commencer, il y a le truc, on a compris, on est conscientisé, on a tout ce qu'il faut, on va travailler, on fait toutes sortes de choses. Et puis après, quand on arrive à 40 ans et que finalement, on est dans des situations plus ou moins pitoyables, parce qu'il faut le dire, eh bien, on éprouve une certaine déception, une certaine amertume. Les ambitions ont été déçues. En tout cas, elles ont été extrêmement ralenties. Si on n'en vient pas jusqu'au cynisme, au moins, on en vient à un certain relativisme et, comme cela se voit très fréquemment, à un certain opinionnisme. Il suffit que certaines personnes qui nous sont proches nous tensent que de mettre de l'eau dans notre vin, sinon on va voir ce qu'on va voir. Et tout d'un coup, on a des illuminations intellectuelles et on se dit « mais c'est évident que les choses sont beaucoup plus complexes qu'on peut l'imaginer », ce qui n'est pas faux, mais les choses sont plus complexes qu'on peut l'imaginer et dans un certain sens, rien aujourd'hui n'est certain, etc. Et donc du coup, faisons ce qu'on peut et vivons quand même une vie qui ne se gêne pas trop pour la religion. Voyez-vous, mes très chers frères, vous voyez à quoi je fais allusion. Donc, voyez-vous, mes très chers frères, tout ceci, vous comprenez que nous parlons, tout ceci concerne, vous comprenez que nous parlons de gens qui ont accueilli, qui ont retenu la parole de Dieu. Les épines, dit notre Seigneur, c'est plusieurs choses, mais ce n'est pas uniquement les plaisirs. Bien sûr, les gens qui sont plongés dans les plaisirs du monde, etc., retiennent rarement longtemps la parole de Dieu. C'est vrai, les plaisirs étouffent la parole de Dieu. Mais notre Seigneur cite les plaisirs à la fin. C'est la troisième chose. Il y a les plaisirs de la vie, évidemment, quand on est dans la débauche, etc., ou d'autres choses moins voyantes, mais disons toutes semblables. Évidemment, on finit vite par évacuer l'Évangile. Les richesses, évidemment, malheur aux riches, dit l'Écriture, bien sûr, si on a la grâce ou d'être riche, il faut faire très attention parce qu'on est dans un très grand danger, justement, de mitiger l'Évangile et de ne pas, finalement, retenir la parole de Dieu. Mais notre Seigneur dit que la première cause d'éviction ou d'étouffement de l'Évangile dans le cœur, c'est les sollicitudes. Qu'est-ce que c'est les sollicitudes? C'est les soucis. Ce sont donc pas simplement les soucis, les plaisirs, il s'agit aussi des sollicitudes, ces fameuses nécessités qui font pression sur nous, parfois qui ont aussi leurs bonnes raisons apparentes, vous voyez, et qui nous poussent à faire des choix contraires à l'orthopraxie religieuse, c'est-à-dire des choix contraires à ce que nous devons faire. Bienheureux ceux qui peuvent en arriver à s'arracher un œil, à se couper la main droite, d'une façon figurée, évidemment, il ne s'agit pas de le faire, maître Chafa, mais qui peuvent, comme dit notre Seigneur, s'arracher un œil, l'œil droit, s'arracher la main, se couper la main, et qui peuvent entrer, quoique manchots et borgnes, dans le royaume de Dieu, et qui ont la vie éternelle de cette manière-là. C'est une façon figurée de parler, bien entendu. Voyez-vous, maître Chafa, il est, à notre époque, extrêmement facile d'être catholique traditionnaliste. Il y a des chapelles qui disent la messe en latin partout, et c'est la chose la moins difficile, surtout si on n'est pas très difficile dans le choix, voyez-vous, maître Chafa. En revanche, lorsqu'on pratique la vraie religion, c'est extrêmement difficile. On est dans le désert. Les oasis sont très rares, voyez-vous, maître Chafa, mais il se trouve que, alors qu'on s'imagine que si on ne boit pas à n'importe quel point d'eau, on va mourir de soif, Dieu pourvoit. L'Église continue d'exister. L'Église n'a jamais commis l'adultère avec la religion. L'Église ne s'est jamais fait diriger par quelqu'un qui prend la place du Christ et qui lui prodigue toutes sortes de mauvaises doctrines, etc. L'Église continue à être ce qu'elle doit être. Certes, elle est dans un état de faiblesse, elle est dans un état, disons, de décrépitude, ça c'est certain. Nous sommes dans la vieillesse de l'Église, mais elle a ses évêques, elle a ses prêtres, elle a ses laïcs. N'oublions pas qu'on ne peut être laïque que dans la mesure où on est soumis au pasteur légitime, parce que laïque signifie membre du peuple de Dieu. On n'est pas laïque, quand bien même on ne serait pas clair, c'est-à-dire on ne serait pas de prêtre ou autre, on n'est pas laïque quand on va chez les Vagus ou qu'on est dans des choses qui ne sont pas catholiques, dans des associations, que sais-je, des associations cléricoïdes qui ne sont pas catholiques. Vous voyez, le laïque c'est celui qui appartient à la parole de Dieu, à l'Église de Dieu, et souhaitons-le, qui reçoit avec fruit la parole de Dieu. Les épines, voyez-vous, mes très chers, ne sont pas seulement les plaisirs, ce sont aussi toutes ces choses qui nous font hésiter à accomplir de graves sacrifices, de coûteux sacrifices, comme dit l'Écriture, pour l'amour de Dieu et par fidélité à l'Église. Nous parlons de ceux qui retiennent la parole de Dieu. Pour retenir la parole de Dieu, il faut une grâce plus forte que celle qui est donnée pour écouter la parole de Dieu. Mais, voyez-vous, mes très chers frères, comme la nature peut suppléer abondamment à cette grâce, il y a grand danger de retomber dans l'esclavage de la volonté propre. Retenir de façon partielle la parole de Dieu, l'Évangile, retenir une petite partie de la religion chrétienne contre sa conscience, contre l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre intelligence, retenir d'une façon partielle, dis-je, la parole de Dieu, pour contenter son bien-être subjectif, c'est travailler à endurcir son cœur. La troisième chose qui est nécessaire pour être sauvé, c'est de porter du fruit, c'est notre troisième point. Écouter, retenir, porter du fruit. Lorsque le bon grain a germé, il porte du fruit, dit notre Seigneur, au centuple. C'est l'œuvre de la grâce, c'est l'œuvre de la grâce efficace, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu, à strictement parler. Tout ce qui n'est pas cette grâce efficace sont des grâces de nature différente, de nature plus faible, et sont des choses assez terribles, puisqu'on peut les recevoir sans être sauvé. Seule la grâce efficace est donnée de façon salvifique. Tant que Dieu, voyez-vous, je vais parler, puisque c'est le temps de carême s'approche, c'est le temps où on parle franchement et on parle sans déguisement, si tant est que, mes très chers frères, nous parlons avec déguisement. Mais parlons d'une façon violente aujourd'hui. Tant que Dieu, comme on dit, je parle en moderne, pour paraphraser un peu saint Paul, je parle bien sûr d'une façon peu sage, mais tant que Dieu respecte la nature humaine, sa liberté, sa capacité de faire des choix, son libre arbitre, etc. Tant que Dieu respecte, entre guillemets, la nature, la concupiscence n'en fait qu'à sa tête, s'opposant sourdement, ou même parfois de façon vive, mais s'opposant sourdement à Dieu, surtout dans le cœur de ceux qui ont écouté, qui ont retenu et qui n'iront pas plus loin. Tant que Dieu respecte la nature n'en fait qu'à sa tête. Il faut que Dieu, pour utiliser l'expression de M. Bossuet, il faut que Dieu exerce cette douce violence, pour faire douce parce que divine, et violence parce que justement forte contre la concupiscence. Il faut que Dieu exerce cette violence qui est douce, selon Dieu, pour faire sortir l'âme de l'ornière de l'amour-propre où elle patauge avec délices. Pour cela, il faut que Dieu nous donne deux choses, deux dons de la grâce. Ces deux dons de la grâce sont mentionnés par notre Seigneur. Écoutez, ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bon et excellent, la retiennent et portent du fruit par la patience. Un cœur bon et excellent, c'est un don de Dieu, mes très chers frères. Bienheureux celui qui écoute la parole de Dieu avec un cœur bon et excellent. Un auteur nous dit que celui dans lequel la charité est plus forte que la concupiscence, celui-là a un cœur bon et excellent. Le cœur bon et excellent, c'est pas la personne qui est disposée à écouter, c'est pas, vous avez compris, ça c'est très bien, mais ça peut être trompeur. Le cœur bon et excellent, c'est le cœur qui désire de tout son cœur, justement, être crucifié avec le Christ. C'est le cœur qui regarde la croix et qui y voit son Sauveur et qui y voit son salut. La crucifixion avec le Christ est embrassée par ce cœur comme étant le seul moyen d'être sauvé. Évidemment, la crucifixion avec le Christ, telle que l'enseigne saint Paul, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est quelque chose de douloureux, quelque chose de contraignant, quelque chose de rébarbatif à la nature, quelque chose qui va à l'encontre du vieil homme, qui le mortifie, justement, qui le tient crucifié, qui crucifie le monde et ses passions. Ce cœur n'est pas tellement enthousiaste pour la crucifixion avec le Christ, car qui voudrait naturellement l'embrasser? Mais ce cœur, en revanche, se défie absolument de ses propres forces. C'est pour cela que, non pas par hasard, mais de façon très providentielle, l'Église nous fait prier aujourd'hui cette prière, cette oraison. Ô Dieu, qui voyez qu'aucune de nos actions ne nous inspire confiance. C'est encore plus fort dans l'original. Deus, qui conspicis quia ex nulla nostra actione confidimus. Ô Dieu, qui voyez que nous ne nous confions dans aucune de nos actions. Nous ne nous confions dans aucune de nos actions, c'est pour cela que nous nous cramponnons au Christ. Nous embrassons le Christ crucifié et nous sommes crucifiés avec lui sur la croix du calvaire. C'est la seule manière d'être sauvé, c'est la seule manière d'avoir un cœur bon et excellent, c'est la manière du cœur bon et excellent de recevoir la parole de Dieu que d'être crucifié avec le Christ. On parle du Christ, on parle de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, etc. On parle de la raison de cet amour généreux de Dieu qui n'avait pas à nous aimer, mais qui nous a aimés parce que le Christ s'est offert pour nous et qu'il nous a donné à son Fils. Et il se trouve, mes très chers frères, que ce Christ, nous comprenons que nous ne pouvons pas bénéficier de sa grâce si nous ne sommes pas en lui, si nous ne sommes pas crucifiés avec lui sur le calvaire, sur la croix. Mes très chers frères, tous nos mérites sont une participation à ceux du Christ. Cette bonté excellente du cœur, c'est-à-dire traduite par certains par la sincérité, cette bonté excellente du cœur est une œuvre de la grâce, une œuvre de la grâce véritablement à l'œuvre. Pas une grâce d'amorce, une grâce efficace qui fait que nous sommes crucifiés avec le Christ ou nous ne le sommes pas. Nous pourrions dire nous ne le sommes pas encore, mais il ne faut pas attendre. Suis-je crucifié avec le Christ? Est-ce que je vis comme quelqu'un qui est crucifié avec le Christ et auquel le monde est crucifié? Oui ou non? Est-ce que la concupiscence est plus forte en moi que la charité? Oui ou non? Ça ne veut pas dire que si elle ne l'est pas encore, je ne suis pas chrétien, donc il faut tout laisser tomber. Ça signifie que je suis en danger d'étouffer par mes épines le bon grain qui a été semé en nous et qui peut sauver nos âmes, comme dit l'Écriture. Donc voyez-vous, mes très chers frères, en ce début de temps de prodrome de carême, posons-nous cette question. Est-ce que je vis comme quelqu'un qui est crucifié avec le Christ ou est-ce que je vis selon les délices de la chair? Est-ce que j'ai écouté la parole de Dieu? Est-ce que je la retiens pour les bonnes raisons? Ou est-ce que, ayant écouté et entendu la parole de Dieu, je l'ai reçue avec un cœur bon et excellent? La deuxième chose dont nous avons besoin, voyez-vous, mes très chers frères, le deuxième don de la grâce qu'il nous faut demander à grand cri à Dieu, notre Seigneur le dit, et qu'il la retienne et porte du fruit par la patience. La deuxième chose, c'est la patience. Le premier, c'est le cœur bon et excellent. La deuxième, c'est la patience. La patience, c'est-à-dire la persévérance dans l'état de crucifié avec le Christ. Dans cet état de déchirement de la chair, c'est-à-dire du vieil homme, de la mortification des passions. Une application au devoir d'État accomplie pour l'amour de Dieu avec excellence, la justice du royaume de Dieu poursuivie pour l'amour de Dieu sans penser à autre chose tout en jouissant de ce que Dieu nous donne par surcroît. C'est cela la patience, mes très chers frères, l'application au devoir d'État accomplie pour l'amour de Dieu avec excellence, autant que cela dépend de nous et cela dépend grandement de nous. La patience, ça ne s'improvise pas. La patience, on ne peut pas la tirer d'un fond de personnalité, de caractère qui est plutôt résilient, comme on dit aujourd'hui. Ça, c'est bien. Si on l'a, c'est bien. Deo gratia, c'est bien. Mais ce n'est pas ça, la patience. Ce n'est pas encore ça, la patience. Au moins, il faut que ça soit surnaturalisé. La patience, comment elle s'obtient? Elle s'obtient par la prière. Nous pourrions dire bien des choses selon ce que les maîtres ont dit, mais nous balayerons la notion de patience assez rapidement. Voyez-vous, dans l'offertoire que nous dirons tout à l'heure, nous disons à Dieu « Affermissez mes pas dans vos sentiers pour que ma démarche ne chancelle pas ». Voilà comment on obtient la patience. On n'obtient pas la patience par des maximes de la sagesse humaine, on la demande à Dieu « Affermissez mes pas dans vos sentiers ». Faites que je puisse marcher toujours plus, toujours mieux, toujours plus loin. Affermissez mes pas. Non pas pour que je jouisse de moi-même, mais pour que mon âme soit transformée en vous, dans le Christ, in Christo. Voyez-vous, dans cette épître très longue où saint Paul nous parle de lui-même, l'exemple de saint Paul s'impose à nous. Nous ne sommes que faiblesse, mais la force du Christ habite en nous. Nous demandons, mes très chers frères, à Dieu que pour la gloire de Dieu, qui se vérifie par la mortification de notre amour propre. Nous devons demander à Dieu, nous qui avons entendu la parole de Dieu, nous qui l'avons retenue, nous devons demander à Dieu le don d'un cœur bon et excellent et le don de la patience afin de pouvoir la retenir et porter du fruit à la gloire de Dieu, afin que notre fruit soit abondant, dit notre Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.